Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de monde.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Grève des enseignants, comment éviter la nouvelle grève prévue pour le 21 janvier prochain? Conclusion du sommet de Pau, qu'est-ce qui va changer dans la lutte contre le terrorisme? Et renouvellement de l'Assemblée nationale, à quand les législatives? Réponse à ces questions tout de suite dans ce forum de la presse. Comme invité, nous avons Shana Takiou du journal 22 septembre, Abdramane Keïta du journal Le Témoin et Youssouf Sissoko du journal Info 7. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Spectateurs de Studio Tamani, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Nous parlerons d'abord de la grève des enseignants qui y a pris fin vendredi dernier, mais une nouvelle grève qui est annoncée pour le 21 janvier prochain. Quelle analyse faites-vous, Monsieur Keïta, de cette grève des enseignants?
Bon, la grève des enseignants, c'est tellement un grand malaise. Un grand malaise qui a débuté depuis que l'État, en position de faiblesse à l'époque, a dû céder à l'ensemble, pratiquement, des revendications et des prétentions corporatistes que les enseignants à l'époque, et l'INTM même à l'époque, avaient posées. Et je puis dire aujourd'hui que l'État est en train d'être rattrapé par son manque de rigueur dans les négociations avec les forces sociales, et son manque d'anticipation à l'époque, puisque j'entends le président de la République parler de moratoire, alors que c'est des choses qu'il fallait voir depuis qu'il prenait le pouvoir. Il fallait voir, anticiper, savoir que cela devrait arriver et chercher le moratoire depuis ce temps-là, compte tenu des grands problèmes et des grandes priorités, autres que les priorités corporatistes auxquelles l'État faisait face depuis que lui, il est arrivé au pouvoir. Somme toute, moi je pense qu'en réalité, nous sommes en train de faire les frais de ce malaise-là, de ce manque d'anticipation de l'État. Or, les syndicats tels qu'on les connaît sont des corporations, des organisations qui profitent toujours de la faiblesse d'État pour obtenir ce qu'ils veulent. Voilà en somme l'analyse que je fais de cette. Ils sont aujourd'hui maximalistes parce qu'ils savent qu'en réalité, l'État est pris par la gorge et que c'est le maximalisme qui paye. Or, l'État aurait pu éviter cette situation, cette posture malencontreuse où il se trouve, en anticipant, en prévenant les choses bien avant.
Jean Attaquiou, êtes-vous d'accord avec cette analyse de M. Keïta?
Oui, on est rarement d'accord, mais je pense que c'est une analyse que je partage, parce que l'école, c'est la vie. Aujourd'hui, il y a un grand malaise au sein de nos familles parce que nos enfants, nos jeunes frères ne vont pas à l'école. Il y a vraiment un malaise profond. Et comme Keïta l'a dit, c'est un manque d'anticipation. Et moi, j'ajouterais que c'est le déficit de dire vrai et d'agir en vérité. Parce que les syndicats ont pu obtenir quelque chose de l'État l'année dernière, tandis que l'État était en position de faiblesse. Et les problèmes de l'État, d'année en année, augmentent, se multiplient. Malheureusement, les engagements pris par l'État ne sont pas tenus. L'État, aujourd'hui, pour une raison objective, ou pas, fait remarquer qu'il ne peut pas prendre en compte les doléances d'ordre financier des enseignants. Maintenant, parce que votre introduction, comment faire pour éviter la grève?
On va y arriver. En attendant, je vais donner la parole à M. Sissoko. M. Keïta disait que l'État a manqué de rigueur et que les enseignants sont en train de profiter de cette situation. Est-ce que vous êtes d'accord?
Bon, est-ce que l'État a manqué de rigueur? Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pieuse pour le ministre de l'Éducation qui est vraiment décédé, les armes à la main. Parce qu'il faut reconnaître quand même que il faut reconnaître quand même que c'est vraiment quelqu'un qui s'est battu beaucoup pour les enseignants. Et d'ailleurs, il n'a pas jamais cessé en tout cas de bousculer le gouvernement pour satisfaire en tout cas les revendications des enseignants. Est-ce que l'État manque de rigueur? Oui, il y a ça. Mais je suis quand même triste de constater quand même qu'on puisse en tout cas être encore à ce niveau. Puisque vous vous rappelez certainement que l'année dernière, quand le nouveau gouvernement a été constitué, et avec comme Premier ministre Dr Boubou Cissé, les discussions, les négociations avaient été entamées avec les syndicats et un accord a été obtenu. Et c'est cet accord-là qui a pratiquement sauvé l'année scolaire, l'année dernière. Et moi, je ne pouvais pas quand même imaginer que cette année encore, qu'on puisse se retrouver à la case départ. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Nous sommes à la case départ. Parce que on ne peut pas du tout comprendre qu'un État sérieux qui prend des engagements et qui n'arrive pas, et qui au bout de quelques mois, viole en tout cas ces mêmes engagements-là. Donc moi, je pense que si les anciens disent qu'ils veulent en tout cas aller en grève encore le 21, c'est parce qu'il y a une crise de confiance. Et c'est cette crise de confiance, justement, qui a la base, en tout cas, de l'exacerbation de la crise scolaire. Sinon, tout le monde est conscient quand même que l'État a des problèmes financiers. Mais est-ce que ces problèmes financiers-là doivent justement occulter les priorités? Parce que pour moi, l'éducation doit être en tout cas une priorité pour un État sérieux. Puisque l'éducation, l'école, c'est l'avenir en tout cas de la nation. Maintenant, si cette école est reléguée au second plan et qu'on avance en tout cas comme argument qu'il n'y a pas d'argent pour justement, puisque ce qui est sûr et certain, et l'État finira par accepter en tout cas les revendications, par satisfaire ces revendications, surtout que c'est un seul point qui fait l'objet en tout cas de discorde, de désaccord entre les anciens et l'État. Donc moi je pense que franchement, pour qu'il...
Quel est ce point?
Ce point-là, c'est l'application de l'article 39. De l'article 39, oui. Justement. Et moi, je pense qu'il faudrait justement que l'État fasse très vite, parce qu'une autre année blanche, franchement, ça va faire du mal, en tout cas, à la jeunesse, en tout cas, aux élèves et aux étudiants.
Vous avez parlé du décès de feu Dr Timoré Tchoulenta. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact négatif sur ce processus?
Bon, peut-être oui, parce qu'il était franchement engagé, très engagé, et il n'a jamais cessé en tout cas de rappeler au gouvernement, en tout cas de satisfaire les revendications des anciens pour éviter en tout cas d'autres désagréments.
Sur quelle tribune là, il n'a eu de cesse de le rappeler au gouvernement?
Non, à chaque fois qu'il rencontre en tout cas les syndicats des anciens, il a tout le temps dit, il a tout le temps réitéré son engagement, en tout cas à voir aboutir ces revendications-là. Et je crois que je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir si en tout cas Réunion avec les autres membres du gouvernement, s'il évoque en tout cas la même chose. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a toujours rassuré les syndicats de son engagement, de sa disponibilité à se battre en tout cas pour l'aboutissement de leurs revendications. Moi, je pense que oui, peut-être que si on a la chance d'avoir quelqu'un d'autre qui a le même degré d'engagement, je pense que ça peut peut-être, bon, ça peut ne pas jouer négativement en tout cas sur le cours de l'histoire.
Tiens, on semble ne pas partager entièrement votre...
Bon, oui, c'est-à-dire que hommage aux morts, hein, il est mort, c'est un ministre... très engagé pour la cause de l'école, d'accord. Mais ça ne dépend pas du ministre. Peut-être que si ça dépendait du ministre, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que c'est une question d'ordre financier. Ça fait partie des raisons qui ont fait partir même l'ancien Premier ministre, Mouloud Boubou Meïga. C'est Boubou qui était le ministre des Finances à l'époque. Il est toujours le ministre des Finances. Celui qui fait savoir au ministre des différents secteurs, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Quel que soit l'engagement, la détermination des ministres de l'éducation nationale, si au niveau de son supérieur hiérarchique, notamment le Premier ministre, surtout le ministre des Finances, on lui fait remarquer que l'État n'a pas les moyens de satisfaire telle ou telle autre revendication financière, ça ne peut pas passer. Ça ne dépend pas d'engagement, de volonté des ministres de l'éducation, non. Quel que soit l'engagement de ce dernier, quelle que soit sa compétence, parce que c'est une question d'argent, espèce sonnante et trébuchante, si l'argent n'existe pas, la revendication ne sera pas satisfaite. Et cela dépasse la compétence du seul ministre de l'Éducation.
Est-ce que vous pensez que la responsabilité du ministre, de l'actuel Premier ministre et également ministre des Finances est plus engagée?
Donc, je le pense. Aujourd'hui, il est ministre des Finances. il est premier ministre, une première dans l'histoire du Mali, c'est l'homme puissant, il est puissant. Et quelque part, si cette grève continue, on va vers une indépendance ou autre là, le premier menacé, c'est lui-même en tant que premier ministre, ministre des Finances. Donc, à ce niveau de responsabilité, on doit jouer franc jeu, être honnête, sincère, dire ce qui est vrai. Dire ce qui est vrai. Il a dit tantôt sur ce quoi, a dit tantôt que l'État sera obligé. Non ! L'État n'est pas obligé. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. L'État va dire ce qu'il peut.
Même s'il s'était engagé à réaliser quelque chose.
C'est ça que l'État s'était engagé, malheureusement. Aujourd'hui, l'État vient nous dire qu'il n'a pas les moyens. Est-ce que tu vois ? Il s'agit maintenant de convaincre les syndicats pour leur montrer effectivement que l'État n'a pas les moyens. Si l'État arrive à convaincre les syndicats de la situation, comme quoi il n'y a pas de moyens parce que les enseignants sont nombreux, l'incidence financière, certains parlent de 30 milliards par mois, je ne sais pas beaucoup. Est-ce que tu vois ? Il faudrait que techniquement, qu'ils nous expliquent et qu'on tente de convaincre les syndicats que cela n'est pas possible. Même là, Abdramane l'a dit, la corporation, les syndicats sont les syndicats et ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent rien savoir. Pour eux, il faut satisfaire leur doléance, un point à la ligne.
Pourquoi trouver un consensus devient aussi difficile entre le gouvernement et les syndicats, les enseignants?
Parce que peut-être que le gouvernement a manqué le moment de chercher ce consensus-là, ce que je viens de dire. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas après engagement. C'est là que je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Si on s'engage, si un État sérieux s'engage, c'est qu'il s'est engagé. C'est clair. Or, cet État a toujours joué le pompier. Chaque fois qu'il y a des revendications corporatistes, on vient, on donne des illusions, on montre des illusions et on les inclut même dans les acquis de l'État. Puisque dans la plupart des discours du chef de l'État, qu'on a entendu, ils disent que bon, parmi les acquis, on a augmenté ceci, on a augmenté cela, mais il n'y a rien de concret en réalité. Et ils sont rattrapés aujourd'hui par des engagements farfelus, si je peux les appeler comme ça, des engagements farfelus qui ont eu à prendre dans le temps. Ce n'est pas normal qu'un État prenne des engagements et ne sache pas qu'il n'a pas les moyens de le futur. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je soutiens un peu et je suis quelque part reconnaissant à Boubou d'avoir dit à l'époque, en tant que simple ministre des Finances, devant les députés à son interpellation, que ce n'était pas possible de prendre les revendications des enseignants dans le budget de l'État. Que les revendications sont au-delà et au-dessus des capacités de l'État. Il l'avait bel et bien dit. Mais néanmoins, les arrangements politiques et autres là ont débouché sur des engagements de l'État qu'aujourd'hui l'État ne peut pas tenir. Donc il est difficile d'avoir un consensus et sur ce point, parce qu'en réalité, l'État s'est déjà engagé.
Justement, si l'État s'engage, vous avez parlé d'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale joue réellement son rôle, assume ses responsabilités face à cette grève?
Mais l'Assemblée nationale, aujourd'hui, est en intercession, ce que je sache. Donc, ils n'ont pas de rôle à jouer actuellement. En son temps, ils ont eu quand même à interpeller les membres du gouvernement sur la question. Et c'est là que Boubou l'a dit clairement, devant tout le monde, devant le peuple malien, que l'État, les moyens de l'État sont en deçà des revendications corporatistes à l'époque, et surtout du monde enseignant. Et il l'a prouvé par A plus B. Mais ils ont trouvé quand même des arrangements, c'est des arrangements politiques, ce sont des arrangements temporaires qui sont aujourd'hui, comme je l'ai dit, rattrapés par le temps. Et je pense qu'en réalité, si l'État, avec un peu plus de rigueur dans la gestion, avec un peu plus d'ardeur dans la lutte contre la corruption et les malversations financières, peut quand même générer des ressources qui, si elles ne parviennent pas à combler l'ensemble de la demande sociale, vont quand même faire beaucoup là-dedans, en attendant que d'autres créneaux et d'autres débouchés s'offrent à lui pour avoir l'argent nécessaire pour
combler. D'accord. Quand vous disiez que les enseignants profitent du manque de rigueur de l'État malien aujourd'hui, est-ce que vous estimez que les enseignants en demandent trop? Est-ce qu'ils vont au-delà de ce qu'ils
À l'époque, moi, je pense que le moratoire que le président de la République est en train de demander aujourd'hui, il aurait pu le demander depuis 2013. Puisque vraiment, l'État a été en crise. Lui, il a parlé de priorité. Si l'éducation doit être priorité, il doit être une priorité pour tout le monde. Les enseignants ne sont pas en train de réclamer, par exemple, que les enfants aillent à l'école dans le nord du Mali où les écoles sont fermées. C'est une priorité. Ça veut dire qu'en réalité, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est la sécurité. Et un État vraiment prévenant, un État qui anticipe, c'est un État qui sait qu'en réalité, l'État dont il a hérité à l'époque, Ibeka, il a même l'habitude de dire que je n'ai pas hérité d'un État. Je l'ai entendu de sa bouche. Il te fait savoir, depuis l'époque, s'il était vraiment, véritablement, il avait véritablement la mesure de la situation à l'époque, que les revendications corporatistes, les revendications sociales n'étaient pas des revendications qui permettent de prendre en charge la priorité des priorités qui est la sécurité.
D'accord. Youssouf Cissokho, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la prochaine grève dans ces conditions, qui est annoncée pour le 21 janvier prochain, mardi prochain, pourra être évitée?
Je ne crois pas, puisque, à ce que je sache, il n'y a aucune démarche nette en cours, pour le moment en tout cas, pour négocier avec les enseignants, afin qu'ils acceptent en tout cas la trêve sociale sollicitée par le président de la République, par le gouvernement. Mais avant cela, et même cette trêve-là, il faut dire les choses clairement. En fait, cet État-là ne peut pas demander aux syndicats d'observer en tout cas un temps de trêve, parce que tout simplement, quand tu regardes le train de vie de l'État, franchement, ça fait souvent révolter. Et c'est ce que les enseignants voient justement. Alors, quand un gouvernement dit...
le manque de ressources qui est signalé n'est pas senti quand on...
Justement, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de ressources, alors qu'on voit à longueur de journée que les budgets des institutions montrent chaque année, que le traitement, en tout cas, des ministres sont exorbitants, et qu'au même moment, vous demandez à des anciens, justement, de sursoir à telle ou telle revendication, ou bien l'État n'est pas en mesure de supporter telle ou telle, en tout cas, charge, telle ou telle revendication. Je crois que ça passera mal avec les syndicats. Et surtout que ça, il faudrait quand même dire ça clairement aux gens. Parce que quand, en tout cas, j'entends les gens dire les syndicats demandent trop, les syndicats demandent trop, mais en réalité, il n'y a pas de nouvelles revendications ici. Ce que les syndicats réclament cette fois-ci, c'est justement l'application de l'article 39. L'article 39. Et le Premier ministre lui-même s'est engagé clairement. Il a dit clairement que c'est une loi et il n'a pas d'autre choix que d'appliquer cette loi.
Dans ce cas, est-ce maintenant, qu'il y a une négociation possible?
Négociation, oui, c'est possible. Parce que dans un premier temps, le gouvernement a proposé 5%. Quand le syndicat des anciens demandait en tout cas 20%, le gouvernement avait proposé 5%. Maintenant, je pense que les lignes peuvent bouger. Peut-être qu'à défaut d'obtenir les 20% en tout cas demandés par les enseignants, l'État peut aussi faire en tout cas une proposition en quittant de 5%, peut-être aller à 10 ou 15%. Peut-être qu'avec ça, et compte tenu de la situation financière actuelle, je crois que les anciens peuvent aussi faire cet effort-là.
Le danger, c'est qu'en réalité, il y a d'autres corporations qui ne sont pas seulement les corporations du fondamental et du secondaire qui attendent. Si ça a réussi pour ces enseignants, le supérieur aussi attend que la même chose que les autres enseignants
ils vont faire les mêmes revendications.
Parce que l'article 39
est sinistre.
Moi, je pense que les lignes peuvent bouger, comme l'a dit Cissokho. Moi, je ne suis pas pour une situation comme ça. C'est-à-dire que dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Il est quand même à l'habitude de le dire. Il y a une loi qui permet aux enseignants d'avoir les 20%. Je pense que c'est un droit. Soit on relit le texte, ou on laisse le texte en l'état, on négocie avec les enseignants comme le président pour un moratoire, mais on maintient les 20%. Pour moi, il n'y a pas de question de venir 5%, 10%. Les demi-solutions ne sont pas des solutions. Il faut des solutions pleines et entières. La loi existe. Cette loi permet aux enseignants d'avoir les 20%. Accordez-leur les 20%. Si cela n'est pas possible cette année, je pense que les négociations doivent aller dans cette direction. Et je pense que c'est ça même le regard d'Ibeka quand il parle de moratoire. Il s'agit de baisser la garde, d'attendre un peu le moment venu pour que l'État puisse respecter cette loi-là. Et s'il y a lieu, de faire le rappel. Je pense qu'il n'y a pas question de 5-10%. Appliquons la loi. Elle est égale pour tous.
Par rapport à la grève qui est annoncée pour le 21 janvier, êtes-vous moins pessimiste que M. Cissokho?
La grève, elle aura lieu.
Elle
aura lieu, la grève. Elle aura lieu, mais il faudra qu'on arrête les grèves cycliques dès maintenant. Il faudrait une... On n'a pas de ministre de l'Éducation d'abord. Est-ce que tu vois? J'ose espérer que d'ici mercredi, on en aura. Est-ce que vous voyez? Et que ce nouveau ministre de l'Éducation puisse prendre langue avec les syndicats, essayer de négocier avec sérieux le moratoire demandé par le président de la République. De mon point de vue, la solution optimale sur le moratoire, et non 5%, 10%, 15%, non. Les enseignants méritent les 20%, il faut leur donner les 20%. Comment, quand on peut négocier sur cette procédure?
L'État est-il une continuité au Mali, Chana?
L'État est une continuité, c'est une règle générale. Mais dans l'application, il y a des faiblesses. Sinon, l'État est une continuité au Mali, même si certains piétinent cette continuité, certaines changent la donne dès qu'il y a changement de ministre ou même de directeur ou même de surveillant. Certains changent la donne. Malheureusement, mais l'État est une continuité. Il faudrait qu'on accepte ce principe, qu'on l'intègre, qu'on travaille avec cela. L'État est une continuité, Duralex, Sedlex.
Abdramane, comment éviter que la grève du 21 janvier prochain n'ait lieu?
Bon, je pense que rien n'est au-dessus de la capacité des uns et des autres de négocier, de s'entendre, d'échanger, et puis de voir comment... Sauf que, l'autre ami l'a dit, Sissoko, il y a une crise de confiance. Un État qui donne son engagement après dire qu'on ne peut pas... Après coup, dire qu'on n'a pas les moyens de respecter ses engagements. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut croire...
Avoir confiance
en cet État quand il vous dit qu'après le moratoire, on va vous faire des rappels. Non. Bon, vous voyez, non, c'est, donc, à partir du moment où...
Juste 30 secondes et je vous donne la parole.
C'est-à-dire que, je ne présage pas, c'est-à-dire que l'État peut avoir la volonté de satisfaire cette doléance en prenant l'engagement. Mais comme nous sommes dans un pays de crise où de nouvelles situations réapparaissent chaque fois, cela pourrait remettre en cause la puissance de l'État, est-ce que tu vois, et sa ferme volonté de satisfaire telle revendication parce qu'il y a telle urgence de l'autre côté.
Mais ça pourrait s'expliquer. Est-ce que cette crise n'a pas eu d'impact sur certaines dépenses au niveau de l'État?
Certainement, la crise sécuritaire a eu d'impact sur l'engagement.
Je pensais que tu m'avais demandé un moratoire.
Allez-y.
Mais je constate que ça dépasse largement les proportions d'un moratoire.
Poursuivez.
Ok. D'accord. Donc, effectivement, il a rappelé. Tant que l'État même ne fait pas de l'effort pour générer des ressources sur son train de vie, tu ne peux pas donner l'assurance aux enseignants et à tous les autres corps qui ont quelques prétentions que ce soit, c'est-à-dire qu'on pourra encore générer des ressources pour répondre à leurs besoins. C'est un peu difficile, est-ce que vous voyez, de le faire de cette façon.
D'accord.
Donc, il faut que l'État montre l'exemple sur lui-même, que nous aussi nous renonçons à certains. Or, à ce que je sache, le budget de la présidence de la République a été augmenté de 3% cette année. On ne sait pas quels sont les facteurs qui ont contribué, mais c'est le cas.
Et ça nous permet d'aborder le second thème de ce grand dialogue, sécurité et terrorisme. À Pau, en France, les chefs d'État français et du G5 Sahel se sont mis d'accord sur 4 grands axes à travers une déclaration commune. Parmi les recommandations figure le renforcement de la force Barkhane par 220 militaires français. Au même moment, un contre-sommet se tenait à Pau, au Burkina Faso cette fois-ci. Cette rencontre a été organisée par des jeunes panafricanistes de l'Afrique de l'Ouest pour dénoncer la présence des forces étrangères dans le Sahel. Chana Takiou, est-ce que vous pensez que la rencontre de Pau va avoir un impact réel sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel?
La rencontre de Pau doit avoir un impact sur la crise sécuritaire au Sahel.
Mais ces recommandations,
elle doit
vous
avoir
rassurent-elles?
Un impact. Oui, ces recommandations portent sur quoi? C'est la formation de nos militaires. C'est vraiment le renforcement de la force Barkhane qui sera remplacée par la force Takuba.
Qui sera surtout
appuyée par la force Takuba. Et puis, on a parlé du développement aussi de ces zones-là. Je pense que si réellement les 4 axes dégagés à Pau sont sérieusement mis en route, il y aura un impact. Renforcer la force Barkhane signifie éliminer davantage les terroristes. Former nos militaires reviendra à dire une montée en puissance de l'armée malienne. travailler à ce qu'il y ait le développement au niveau de la base permettra également à nos populations de sortir petit à petit de la pauvreté, de s'éloigner de la misère et par conséquent de ne pas aller vers ces vendeurs d'illusions. Je pense que honnêtement, si ces recommandations sont sérieusement mises en route, il y aura un impact.
Pensez-vous qu'elles seront sérieusement mises en route?
Je n'ai pas de raison de douter aujourd'hui que ces recommandations ne seront pas mises en route. Parce que la première puissance qui aide le Sahel, c'est la France. La France, vous n'êtes pas sans savoir, est malmenée aujourd'hui dans l'espace sahélien. La France s'est malmenée. La France a besoin d'avoir deux résultats pour pouvoir rester dans le Sahel. Si aujourd'hui la France est critiquée, si certains demandent le départ de la force Barkhane, c'est parce que par rapport à son objectif, il n'y a pas de résultat satisfaisant. Nous sommes dessus des résultats de la force Barkhane. C'est parce que la paix que nous attendions, la sécurité que nous attendions, ne sont pas au rendez-vous.
D'accord,
c'est pourquoi une bonne partie de l'opinion publique demande leur départ. Donc la force Barkhane a obligation de résultat, sinon, demain plus qu'hier, les uns et les autres demanderont son départ.
Sissoko, pensez-vous que la rencontre de Pau va avoir un impact positif?
Bon, nous osons espérer. Nous osons espérer que, en tout cas, cette rencontre là-bas va avoir un impact. Puisque les déclarations de bonnes intentions qui en sont issues et prennent quand même en compte les préoccupations des populations des pays du Sahel.
Mais est-ce que ce sont des déclarations de bonnes intentions qui ont manqué jusque-là?
Justement, maintenant, puisque y a les dons ont changé, parce que hier, si le peuple était là à subir seulement, et cette fois-ci, maintenant, c'est le peuple qui s'est réveillé. Le peuple sahélien s'est réveillé et vous avez quand même dû remarquer et toutes les manifestations anti-forces étrangères, anti-françaises. Donc moi, je pense que c'est justement en fonction de ça, justement, que le président français a jugé opportun, justement, de réunir ses homologues du Sahel pour débattre, en tout cas, clairement et sans passion des questions liées à la sécurité, en tout cas, au Sahel. Et moi, je pense bien que c'est des déclarations de bonnes intentions. Maintenant, moi, je ne serais pas peut-être optimiste, je n'aurais pas le même optimisme que mon ami Shahana. Je voudrais justement voir concrètement les choses sur le terrain. Puisque, comme vous l'avez si bien dit, peut-être que, à part les 220 militaires qui seront complémentaires, qui seront ajoutés aux 4500 forces Barkhane qui sont là, moi, je pense qu'il n'y a pas d'autres, nouveaux éléments. Ce serait le G5 Sahel, les armées nationales, en tout cas, des différents pays. Et ensuite, les forces Barkhane. Et la France sollicite aussi une coopération internationale beaucoup plus élargie pour justement lutter contre ce terrorisme. Moi, je pense que, honnêtement, moi, j'attends de voir d'abord. Parce que, franchement, et comme Shahana l'a si bien dit, les résultats sur le terrain obtenus, pour le moment, ne sont pas satisfaisants. Maintenant, puisqu'il y a eu ce sommet, donc nous attendons.
Optimiste ou pessimiste?
Bon, moi, je pense que un optimiste justifie par le changement d'approche qu'il y a dans la conception même et dans la perception même du problème. Et ce changement d'approche est perceptible sur des éléments, et contrairement à ce que les gens disent, déclarent sur de bonnes intentions, je pense que c'est quand même des affirmations, des engagements des chefs de l'État, de certains éléments qui sont, par exemple, la conjonction des efforts et la coordination des différentes armées. Avant, ça n'existait pas. Chacun faisait cavalier seul, les forces Barkhane étaient à côté, les forces maliennes à côté. Aujourd'hui, les forces du G5 auront des commandements conjoints avec la France pour aborder le problème. L'autre changement, c'est qu'ils ont aussi compris qu'en réalité, la lutte contre la corruption peut dépendre aussi de la présence et de la souveraineté des États sur l'ensemble des territoires. C'est ce qui est également affirmé dans les engagements.
Notamment la présence de l'armée Kidal.
Et un peu partout où l'État est absent, ça donne quand même la possibilité et ça donne libre cours à toutes les pratiques sur lesquelles il n'a aucune prise, il n'a aucun regard. Or, la présence de l'État, des États, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de l'État malien, on parle de l'ensemble des États de la sous-région, c'est une autre perception et une autre approche de la situation. L'autre approche, c'est qu'ils ont compris également qu'il faut beaucoup plus de présence dans les différentes frontières pour contrôler les mouvements. Toutes choses qui n'existaient pas auparavant. last note, bête note de liste, ils ont compris également que la situation sécuritaire des États du Sahel peut dépendre de la situation en Libye. Et ça a été réaffirmé. Donc je pense que tout cela est pris et va beaucoup plus clarifier, surtout la conjonction et la coordination des efforts, le travail ensemble, les opérations qu'ils vont mener ensemble, permettrait par ailleurs de lever certains équivoques. On a souvent entendu les gens dire, par exemple, que c'est la France même qui bombarde les militaires maliens. Mmh. Quand ils sont ensemble, on n'entendra plus. Ce n'est pas possible que vraiment il y ait des présomptions aussi malveillantes du genre. Et la même chose, hier, on disait également que c'est des militaires maliens qui s'habillent en donceau pour s'attaquer aux Turcs, avec beaucoup plus de regards conjoints sur les frontières, sur les mouvements, sur ce qui se passe sur le terrain. Il n'y aura pas aussi des choses comme ça. Donc vraiment, il y a vraiment un changement d'approche qui laisse espérer qu'il y a une véritable dynamique de lutte contre le terrorisme qui vient d'être enclenchée. Et avec, comme l'ont dit mes prédécesseurs, avec la réserve, si cela est réellement, quitte la théorie pour atteindre la dimension de la pratique.
Pensez-vous que la présence de l'armée malienne à Kidal va donc être une réalité?
Bon, c'est ce qui est affirmé quand même. Aujourd'hui, c'est une affirmation, c'est un engagement. Et pas seulement l'armée malienne, l'ensemble des autres armées. Leur présence sera une réalité sur l'ensemble du territoire, non seulement les armées, mais aussi les administrations. C'est ce qui est affirmé dans leurs engagements. Les administrations, les chaînes pénales, tout ça, tout sera là. Et tout cela sera encadré. Et quelqu'un l'a dit avant moi, je pense que c'est Shana, c'est qu'il y aura aussi une dynamique de formation de nos armées respectives pour les rendre aptes à mieux contrôler les mouvements dans les différentes frontières. Vraiment, ce sont vraiment des approches, je pense, des nouvelles approches, des approches qui ont changé la donne, qui vont normalement changer la donne si elles étaient appliquées.
Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport au sentiment anti-politique française qui règne dans le pays et même, peut-on dire, dans le Sahel aujourd'hui?
Ça doit changer quelque chose. Ça doit changer quelque chose. Le retour de l'administration dans le Nord, moi je ne parle même pas de Kidal. À Tombouctou, à Gao, l'administration financière n'existe pas. Pour payer les impôts, il faut venir jusqu'à Bamako. Pour enregistrer les fournisseurs, pour enregistrer leurs dossiers, il faut venir jusqu'à Bamako pour se faire payer Bamako. C'est-à-dire que l'administration, les services de l'assiette de l'État n'existent pas à Tombouctou, n'existent pas à Gao. Ne parlons pas des cercles Menaka ou Direi ou Gunda ou Nyefenke. Tout est ici à Bamako au niveau de la direction générale du budget.
Et l'éducation aussi au centre et au nord du pays.
Bon, ça n'existe pas au centre. Il y a beaucoup d'écoles qui sont formées. À Gao, Tombouctou, dans la région, il y a Taoudeni, il y a beaucoup d'écoles qui sont formées. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire une fixation seulement sur Kidal. Sur le nord, dans sa globalité, et le centre, dans sa globalité. Il faut voir le nord du Mali, sinon que nos forces armées partent à Kidal pour être dans une caserne, rester, croître là-bas. À quoi ça sert que le préfet ou le gouverneur aille à Kidal, rester dans son bureau? À quoi ça sert s'il n'administre pas? Est-ce que vous voyez? Mais je suis d'accord qu'il faut aller doucement, progressivement. Est-ce que vous voyez? Progressivement, surtout qu'il y a une élection qui s'annonce. Donc la présence de cette administration est indispensable, nécessaire pour les futures élections annoncées.
Les forces de sécurité présentes au Mali qui se préparent, les terroristes également, selon certains spécialistes, se préparent. Alors, est-ce qu'il faudrait prioriser le renseignement?
Ça, c'est déjà dans leur revendication, dans les grands axes issus, en tout cas, de leur rencontre. Il est question, justement, de mettre un accent particulier sur le renseignement.
Mutualiser,
justement, les forces et puis avoir des renseignements. En fait, ça, c'est nécessaire. Et aucune guerre ne peut être gagnée sans, justement, mettre un accent sur ce point-là, sur le point de renseignement. Mais maintenant, je ne sais pas si la France va continuer à jouer et franchir. Parce que moi, j'ai des doutes, franchement, sur ça. Parce que, vous savez, la France peut dire oui. Elle a d'ailleurs dit tout le temps, nous n'empêchons pas l'armée malienne d'aller à Kidal. Mais en réalité, l'armée malienne ne peut pas rentrer à Kidal sans l'aval de la France. Tout le monde sait ça. Donc maintenant, c'est pourquoi j'ai parlé tantôt de déclaration de bonnes intentions. Parce que moi, je voudrais voir d'abord concrètement, c'est-à-dire la mise en œuvre des différentes recommandations issues de cette rencontre. C'est vrai, la France, aujourd'hui, elle est dos au mur. Parce que non seulement son peuple est mécontent, parce que c'est des Français qui sont morts au nord du Mali, ou dans le Sahel, et dans les pays sahéliens aussi, il y a un sentiment anti-français beaucoup plus développé. Donc face à tout ça, à toute cette colère, la France est obligée justement de tenir ce langage-là.
Dans ce cas, êtes-vous d'accord avec le chercheur à l'Institut d'études de sécurité, Ibrahim Maïga, qui estime que la rencontre de Pau n'a pas apporté de changement majeur?
Non, peut-être il serait tôt peut-être il serait très tôt de parler d'aspects négatifs. Mais moi, je pense honnêtement qu'il faudrait attendre d'abord. Parce que, franchement, à chaud comme ça, ce qui est sûr, et le président des pays du Sahel, et le président français, ils sont tous dos au mur aujourd'hui. Donc ils sont obligés justement de se montrer en tout cas beaucoup plus engagés pour pouvoir en tout cas combattre ce terrorisme. Mais en réalité, la réalité c'est qu'il faudrait voir concrètement sur le terrain ce que ça va donner, ce que les résolutions en tout cas de cette rencontre-là vont réellement donner sur le terrain.
D'accord. Certains demandent également aujourd'hui que les chefs d'État du G5 Sahel assument beaucoup plus leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on peut s'attendre à cela?
Leur engagement, je pense que leur engagement n'a jamais fait de faux dans la lutte contre le terrorisme. C'est peut-être leurs moyens qui ont fait de faux. Et aujourd'hui, les moyens matériels, je pense, et puisque surtout c'est ce que je déplore par ailleurs, c'est ça, c'est ceux qui ne figurent pas. Les moyens qu'on va leur donner.
Qui doit les donner?
Les moyens sont les partenaires, puisque tout le monde connaît les moyens, la vétusté de nos, et les moyens militaires dont nous disposons. Donc forcément, la conjonction et la coordination des efforts des différentes armées devraient se traduire aussi par un meilleur réarmement de nos armées, qui sont quand même sous-armées. On ne peut pas faire face à ces... Pour faire face, on peut mieux faire face à ces terroristes. Donc, je pense qu'en réalité, l'engagement des chefs d'État n'a jamais fait de faux. Et c'est une question d'urgence. Ce n'est pas une question, un phénomène qui va vous donner le temps de mieux vous armer pour y faire face. Non. C'est une question qui demande qu'on soit aidé. Et pendant qu'on est aidé, on se réarme progressivement pour faire face au phénomène. Donc les gens qui demandent que la France quitte, je pense qu'ils sont, en train de... c'est un peu illusoire quoi, de penser que les États-là peuvent faire face à ces terroristes-là sans la France. D'autre part, je pense que ces sentiments anti-français dont vous avez parlé sont quand même des mouvements nécessaires. Parce que s'il y a eu Pau, un changement d'approche, c'est parce qu'il y a eu cette pression-là dans les différents États. D'accord. Peut-être qu'il faut les accentuer davantage pour que ça serve désormais de d'épée de Damoclès pour mieux booster l'engagement de la France à réellement faire face à ce problème tel qu'il est décrit dans ses engagements depuis le départ, quand il venait avec la force servale.
Et on va parler d'élections. Une rencontre entre le Premier ministre et les gouverneurs de région s'est tenue cette semaine à Bamako. Elle portait sur les préparatifs des élections législatives, mais aucune date n'a été pour le moment indiquée pour la tenue de ce scrutin. Que pensez-vous de cette organisation des prochaines législatives, M. Sissoko?
Oui, en fait, le gouvernement n'a plus le choix parce que après avoir prolongé à deux reprises, en tout cas, le mandat des députés, je pense que c'est d'abord l'une des résolutions du dialogue national inclusif. Et au-delà de ça, moi, je pense que cette date était déjà là parce que au-delà du demain déjà, s'il faut s'attendre, en tout cas, à d'autres remous, puisque les associations et certains partis politiques n'allaient jamais accepter au-delà du demain que le mandat, en tout cas, des députés soit reporté. Donc, je pense que le gouvernement n'a plus le choix. Il va organiser ses élections. Et d'ailleurs, peut-être que d'ici la fin de la semaine prochaine, c'est sûr que le collège électoral va être convoqué parce qu'il faut le faire avant, deux mois avant, justement, la tenue de ces élections. Parce qu'il faut terminer avec, justement, ces législatives-là avant le 2 mai, pour qu'à partir du 2 mai, justement, que la nouvelle Assemblée soit constituée. Moi, je pense, je ne fais aucun doute que le gouvernement va organiser les élections. Peut-être que, est-ce que ces élections vont être organisées sur toute l'étendue du territoire? C'est vraiment là la grande question.
À quand les élections législatives, selon vous?
Je pense que le collège électoral sera convoqué le 22 janvier prochain, c'est-à-dire mercredi prochain, selon des sources crédibles. Et le premier tour des législatives est prévu, selon mes informations, le 22 mars. Et le deuxième tour, le 12 avril. Donc, je pense que tout a été peaufiné. Il y a un chronogramme bien établi. Et je pense que mercredi, en Conseil du ministre, ce chronogramme sera rendu public et le collège électoral sera convoqué.
Avez-vous les mêmes informations?
Il n'y a pas d'informations à connaître là-dessus. Mmh. C'est la loi. Mmh. C'est la loi qui détermine.
Mais par rapport au 22, temps, au mercredi prochain.
Bon, s'ils ne sont pas dans la fourchette du 22, ils peuvent être forclos dans la convocation. Parce que la loi dit qu'il faut.
Il y a un temps incompressible.
Dans lequel il faut convoquer le collège électoral. Ceci dit, encore une fois, moi je pense que le gouvernement a fait encore montre de légèreté dans l'acceptation de ces dates-là, du 2 mai. Parce que vraiment, aujourd'hui, il est encore pris par la gorge par rapport au préalable qu'il faut pour tenir ces élections-là. Et l'un des préalables, c'est, comme vous l'avez dit, la sécurité. La sécurité aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire. On ne peut pas présager, on ne peut pas présumer de sa capacité du gouvernement à assurer la sécurité. Les gens l'ont dit ici, selon la loi fondamentale, les élections doivent s'organiser de façon intégrale sur l'ensemble du territoire et avoir des élections non bâclées.
Et est-ce que ce sera possible dans ce contexte?
Dans ce contexte, encore, rien ne vraiment n'assure que les élections peuvent se tenir dans un territoire aussi sécurisé pour accepter, pour avoir vraiment, pour se tenir dans les conditions acceptables, dans des conditions vraiment de crédibilité et de transparence qui puissent les rendre acceptables et qui puissent les valider. Ça, c'est de deux. Et la loi électorale actuelle applicable aux élections me paraît incompatible avec les législatives. Parce que c'est une loi qui parle, par exemple, de la présence des paritaires de l'opposition et de la majorité dans chaque bureau de vote, alors qu'ils sont des dizaines de milliers de bureaux de vote, pour des élections qui ne vont pas forcément respecter et la démarcation pour les listes entre opposition et majorité. Comment on va dans chaque bureau faire représenter? Donc, ce qui fait que l'État est confronté à un défi de réélection de la loi pour l'adapter au contexte, au risque de rendre les élections, encore une fois, les exposer à une invalidation par les forces qui ne seront pas d'accord avec son organisation.
Sissoko, élection crédible et transparente, peut-on s'attendre à cela?
Je ne sais pas. Puisque ce gouvernement, franchement, on ne peut pas présumer, en tout cas, d'une bonne élection avec ce gouvernement-là. Franchement, parce que Abdramane l'a dit déjà, et le fait, en tout cas, d'organiser les choses à chaque fois que vous êtes en tout cas face à une crise, le couteau à la gorge, je vais dire. Moi, je pense que franchement, je ne pense pas que les élections puissent être transparentes, parce que d'abord les conditions sécuritaires ne sont pas réunies et ce n'est pas sûr que dans certains endroits que les élections vont être tenues. Et si elles sont tenues, je me demande si en tout cas les conditions de transparence et de crédibilité vont être en tout cas de mise dans ces localités-là. Donc moi je pense qu'une élection va être organisée par le gouvernement et ça nous permettra comme on essaie d'avoir en tout cas une assemblée légitime parce que les députés qui sont là...
Et rapidement, dernier tour de table, on commence par Shahana. Que faut-il pour qu'on puisse avoir une élection très crédible et transparente? Défaut de temps, allez-y.
Par rapport à ça, c'est-à-dire que moi je pense que l'élection va être organisée, c'est-à-dire que on fait avec l'existant.
Mais est-ce qu'on aura une élection crédible et transparente?
Laissez-moi, j'en viens. On parle de sécurité... et des raisons sécuritaires, tout ça là, mais il faudrait que les gens sachent ce qu'ils veulent. Les gens sont en train de contester le report.
Rapidement, il nous reste 30 secondes.
Par rapport aux législatives, le temps. Laisse-moi terminer, jeune homme.
Il a 30 secondes.
Les gens sont contre le fait de reporter les élections. Ils veulent coûte que coûte qu'il y ait une nouvelle Assemblée nationale. Il y a un délai qui est là. On va aller vers une élection. On connaît la situation de notre pays. Il faut tenter. Il faut oser. Il faut tenter.
osé organiser ces élections le jour de l'élection.
Même si ce sera un résultat.
Non, pas même si ce serait. Non. On le fait dans l'intention de bien le faire. Et sur le terrain, on verra.
Est-ce la bonne démarche?
On verra. Il faut oser. Avec de bonnes intentions.
Moi, je ne pense pas. Je pense qu'en réalité, l'État devrait, depuis le DNI, il leur a donné ces dates-là.
Donc, vous pensez que l'État devait anticiper depuis longtemps?
Devait vraiment demander un peu plus de temps.
D'accord. Est-ce que vous pensez que aussi il fallait anticiper ou est-ce la bonne démarche?
Entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Cette assemblée, elle est illégitime. Il faut une nouvelle assemblée.
Merci beaucoup. Quand on invite des journalistes, le débat est chaud. Merci à nos trois invités qui sont tous journalistes. Shahana Takiou du journal 22 septembre, Abdrahmane Keïta du journal Le Témoin et Youssouf Sissoko du journal Info 7. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Gagny Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À vendredi prochain pour un prochain forum de la presse de Studio Tamani. Merci à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.